J'aimerais aussi tout à l'heure vous laisser la place à un certain nombre de questions, parce qu'on a beaucoup à discuter là-dessus. Et comme effectivement, je n'ai absolument pas suivi ce que j'avais prévu, ce qui est mon habitude, j'aimerais peut-être que l'on commence directement à poser quelques questions qui peuvent vous toucher plus particulièrement. Il est clair qu'on peut parler des causes du manque de confiance en soi, on peut parler du traitement, de la façon dont ça peut se passer, ce qu'on peut faire avec un enfant ou ne pas faire. Bah tiens, à propos d'enfants, j'ai un petit exemple à vous donner qui me vient à l'esprit et qui a, je dirais, motivé mon intérêt pour ce genre de sujet. J'étais étudiante, il y a longtemps, et à cette époque-là, j'ai eu un poste d'enseignante en même temps. À cette époque-là, très souvent, on travaillait en même temps que nos études. Et j'avais dans une classe de 5e un gamin qui était vraiment le dernier de la classe, mais alors le radiateur multiplié par 10, et qui, de toute évidence, se prenait pour un total nul, et que les parents considéraient aussi bien comme nul. Ils étaient venus me voir en me disant, de toute façon, vous ne fatiguez pas, il manque totalement d'intelligence, il ne réfléchit pas, il ne pense pas, il n'a aucune possibilité. Et il traînait lamentablement de cette façon-là. Et moi, je n'avais pas eu l'impression que cet enfant n'avait aucun retard mental, n'avait aucun retard émotionnel, me paraissait devoir avoir la possibilité de prendre le train en marche. Et puis, comme j'étais pendant mes études de psycho, bien sûr, il est devenu un peu mon cobaye, j'ai honte, j'explique tout. Et en fait, j'avais mis en place un petit jeu avec le reste de la classe qui a consisté, ils ne l'ont pas su, je ne l'aurais pas dit, mais en fait, chaque fois, il était par exemple parfaitement nul en orthographe. Et à l'époque, vous savez, on comptait les points en arrière. Hein, c'est-à-dire qu'on enlevait tant de points pour tel genre de faute, un demi-point pour ci, trois points pour un S, machin, etc. Et lui, en général, quand on faisait une dictée, il était facilement à moins 30. C'était à peu près dans ces zones-là. Et ce qu'on a fait, la première fois, au lieu d'avoir moins 30, il a eu moins 25, je l'ai félicité. Et on a continué ce jeu-là. Mais je lui ai dit, tu te rends compte, c'est génial. Là, tu as fait beaucoup moins de fautes que d'habitude. Et on a continué, je lui ai expliqué. Et en fait, à mon étonnement, mais absolu, c'est vraiment, il a déterminé beaucoup de mon avenir sans le savoir, ce gamin. Eh bien, à peu près en 3 mois, il est arrivé quand même à se faire des dictées avec un 10 sur 20. Ce qui était totalement, ce qui relevait du miracle. Et ce qui était amusant, c'est que le reste de la classe, assez vite, en fait, s'est mis à l'applaudir. Je me souviens du jour où il a atteint le zéro et où toute la classe a éclaté en applaudissements. Vous savez, c'est quelque chose qui est assez touchant, ça. Tout simplement pour avoir un peu remonté l'image de lui-même qui était au degré en dessous de zéro, de la même façon que son orthographe, et simplement lui avoir expliqué que si c'était possible, qu'il pouvait, et que quelqu'un au moins croyait en lui et en la possibilité d'améliorer la donne. Or ça, cet exemple-là, il est extrême. Mais nous, notre façon de nous comporter avec nous-mêmes, notre façon d'être notre pire ennemi, les 3/4 du temps, eh bien, elle tient bien souvent à des petits détails qui nous sont arrivés pendant notre enfance, où une remarque nous a été faite qui pouvait être très blessante et qui est restée comme une blessure ouverte, qui n'était pas obligatoirement quelque chose de grave, et sur lequel on a ancré le « je ne vaux rien, je suis nul en ceci, je ne suis pas capable de, je n'arriverai jamais, donc je n'essaie pas. Si je sais que je suis nul, je ne vais même pas risquer d'oser m'affirmer. » Parce que dans le titre de ma conférence, il y avait aussi « oser ». Or, pour oser prendre des risques, et des risques, je dirais, réfléchis, des risques constructifs, oser, ce n'est pas pour moi participer à Fear Factor et se lancer dans le vide n'importe comment. Oser, c'est prendre un risque réfléchi, se dire « là, j'ai telle et telle situation, j'ai tel et tel outil sur lequel m'appuyer, j'ai telle et telle possibilité, eh bien, je vais essayer, et si j'échoue, comme disait ma grand-mère, c'est pas grave, le monde ne va pas s'arrêter pour autant. » Je peux vous dire qu'une réflexion comme ça qu'on vous fait quand vous avez des examens et que vous êtes du genre à avoir peur, eh bien tout d'un coup, ça vous fait pousser un grand soupir de soulagement et ça vous donne 10 fois plus de chances de réussir. Ça, ce sont des exemples très concrets, très ordinaires, mais il faut aussi essayer de voir à l'intérieur de nous-mêmes toutes ces petites amorces sur lesquelles notre écureuil intérieur va se jeter pour nous répéter pendant des heures dans des situations stressantes « tu ne peux pas » et « on t'a dit ça parce que » et puis « on ne t'a pas dit ça, donc » etc. Combien de fois, par exemple, prenons un exemple concret, quelqu'un veut demander une augmentation à son patron. Il s'est fait la leçon, il a bien vérifié que cette augmentation était méritée, que c'était justifié, il s'est dit, exprimé sa demande déjà à l'avance, et puis au moment d'aller demander cette augmentation, le mouvement s'arrête, inhibition, hein, démobilisation dans certains cas, il tourne les talons, il y renonce. Bien, que s'est-il passé dans ce cas-là? Bien sûr, le risque était pourtant réfléchi, osé, était décidé. L'inhibition a eu lieu parce qu'il s'est fait tout un cinéma intérieur sur l'accueil qu'il allait recevoir. Il va me dire non. Et alors? Ça n'a jamais tué quelqu'un d'essuyer un refus. Ça risque de me porter préjudice. Et pourquoi donc? Si la demande était justifiée, il n'y a pas de problème. Il va m'en vouloir. Tiens donc, on se met à projeter des intentions à quelqu'un qui n'a rien manifesté de tel, etc. Donc, cette façon aussi que l'on a parfois de se dire « j'ai rencontré telle personne, mais pourquoi il ne m'a pas salué comme d'habitude? J'ai dû faire quelque chose de mal, ça y est, je suis sur le siège éjectable, je vais être viré le mois prochain, je sais qu'il va y avoir des restrictions de personnel, etc. » Alors que peut-être simplement on ne se demande pas si la personne en question avait un début de grippe, s'était disputé avec sa femme le matin avant de partir, ou des choses de ce genre. Donc, si vous voulez, ce cinéma intérieur, ce dialogue que l'on a tendance à ne pas maîtriser et que, bien sûr, on laisse en général joyeusement se dérouler sur les points faibles, sur les endroits qui font mal, bien évidemment, c'est là aussi pour nous attirer l'attention sur des choses que l'on n'a pas tendance à regarder spontanément. Eh bien, commencer par y prêter attention lorsque ça commence à se dérouler, à s'arrêter, prendre une grande respiration, s'écouter un peu soi-même, prendre un tout petit poil de recul pour devenir l'observateur et se dédoubler en quelque sorte, et regarder l'observer, dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est mis en danger en moi au point que ça me fait dérouler tout ce cinéma. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi j'interprète ça comme ça? Qu'est-ce qui en moi manque à ce point de centrage, se sent mis en insécurité?